Vous écoutez, on lit pour vous.
Masculinisme, naturalisme et darwinisme, un texte de Boucar Diouf, paru le 30 novembre 2024 dans la presse. Permettez-moi de poursuivre ma chronique déjà parue sur cette nouvelle misogynie qui amène les jeunes d'aujourd'hui à se définir comme des mâles alpha. La lecture du fantastique bouquin de Lucy Cook, qui s'intitule « Bitch, le pouvoir des femelles dans le monde animal », m'a donné le goût d'amener Darwin et sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle à la barre. Ce génial naturaliste portait aussi la vision réductrice de la femme en vogue dans l'Angleterre victorienne. Si révolutionnaire qu'ait été la théorie de Darwin au moment de sa publication, elle manquait de mordant pour expliquer l'origine des caractères exubérants des mâles, comme les bois qu'arborent les cervidés et la queue démesurée du pin, des structures dont la fabrication nécessite à son porteur d'énormes investissements énergétiques. Vu sous l'angle de la théorie de Darwin en vogue, ces extravagances n'offrent aucun avantage évolutif et peuvent même nuire à leur porteur en cas de rencontre avec un prédateur. Pourquoi la nature a-t-elle maintenu ce gaspillage d'énergie? Confronté à ce dilemme, Darwin eut une autre étincelle de génie et développa une théorie complémentaire. Il imagina un lien entre ces extravagances et la recherche et la séduction de partenaires sexuels. Il leur donna le nom de caractère sexuel secondaire par opposition aux caractères primaires que sont les organes reproducteurs. Cette deuxième grande idée de Darwin est appelée la théorie de la sélection sexuelle. Elle sera développée dans son ouvrage paru en 1871, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. Si la sélection naturelle est une arène de lutte pour la survie d'une espèce, la sélection sexuelle est celle des compétitions et stratégies pour trouver une partenaire et transmettre ses gènes. Darwin dira de ce combat qu'il est celui des mâles, qui sont plus passionnés que les femelles. Les mâles se battent et les farouches femelles choisissent. En reconnaissant aux femelles la liberté de choisir, Darwin heurta malheureusement la sensibilité d'une certaine phallocratie victorienne qui rejeta sa nouvelle théorie d'un revers de main. Pour ces gens, accorder aux femelles la capacité de choisir n'était pas une option. Ici, le mariage arrangé, dit Lucy Cook, était à la mode et la femme s'occupait de la maison, faisait des enfants et servait son mari à tous les niveaux. Aussi, le vent de face a été si puissant que Darwin décida d'édulcorer sa théorie et de minimiser le rôle des femelles dans les accouplements. Il expliqua que le choix des femelles se faisait plus par instinct que de façon intentionnelle. Il choisit d'adapter sa vision aux préjugés sociétaux de son époque, qui faisaient des femelles des êtres passifs et farouches, alors que les mâles étaient considérés comme passionnés et conquérant. Il faut dire que Darwin aussi avait un rapport problématique avec les femmes. D'ailleurs, la façon dont il s'est marié à sa cousine en est une belle illustration. Le savant y est allé avec un protocole expérimental qui a traversé le temps pour son manque de romantisme. Darwin a commencé par dresser la liste des avantages et des inconvénients du mariage avant de se décider. Cette lettre envoyée à son ami est encore largement mentionnée dans la littérature scientifique et raillée délicieusement par Lucy Cook dans son ouvrage. Dans la colonne des inconvénients, Darwin redoutait que le mariage le prive de conversations avec les hommes intelligents dans les clubs. Il se voyait devenir gras et oisif. une étape, dit-il, juste avant son bannissement des cercles d'intellectuels. Dans la colonne des avantages, Darwin trouvait intéressante l'idée d'avoir une personne pour tenir sa maison. Il souligne aussi que la présence d'une jolie femme douce dans une maison est pas mal plus souhaitable que d'avoir un chien comme seule compagnie. Il avait fini par se marier et respecter scrupuleusement son devoir conjugal au point de faire 10 enfants avec sa cousine Emma. Vous écoutez Masculinisme, naturalisme et darwinisme, un texte de Boucard Diouf, paru le 30 novembre 2024 dans la presse. Soutenu par des figures scientifiques intouchables, cette idée de la passivité femelle restera indétrônable pendant un siècle. Puis, avec la révolution sexuelle, de nombreuses et brillantes scientifiques au regard aiguisé arriveront dans la recherche. Une mixité qui bousculera solidement ces fausses certitudes héritées de l'époque victorienne. L'autrice rend hommage à ces féministes qui ont secoué les colonnes du Temple. Elle évoque les travaux de Sarah Blaffer Hardy, Jeanne Altman, Mary Jane West Eberhard, Patricia Gowathy, etc. Dans cette grande remise en question, elle souligne également la contribution de chercheurs féministes et celle de scientifiques issus des minorités sexuelles. On peut citer ici l'exemple de John Roughgarden, qui a taclé solidement la vision hétéronormative, l'expression du sexe, son rôle dans le vivant et le dictat du binarisme dans les sciences de l'évolution. Son bouquin intitulé « Le gène généreux, qui plaide pour un darwinisme coopératif » est un bijou. Que dire aussi des travaux du biologiste canadien Bruce Badgemill, qui a documenté méthodiquement les comportements sexuels entre individus de même sexe chez 450 espèces différentes? Une magistrale façon de démontrer que la reproduction n'est que la partie émergée des nombreuses fonctions du sexe dans le monde animal. En matière de sexualité, toutes les pratiques sont dans la nature. Il faut rappeler ces faits à une certaine droite, qui appelle souvent la science en renfort pour justifier son homophobie et sa transphobie délétère. Je devrais plutôt dire pour conjurer son propre malheur existentiel en s'attaquant honteusement à des gens souvent vulnérables qui ne veulent de mal à personne. Où en sommes-nous maintenant? Aujourd'hui, on sait que, chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles et même les insectes, les femelles choisissent de façon sensorielle les mâles qui correspondent à leurs critères, dit l'autrice. Elles discriminent par la couleur, les cris, les chants, les odeurs, les danses, etc. Une fois le constat fait, on comprend un peu mieux pourquoi le patriarcat ne voulait rien savoir de cette idée. Si les femelles imposent des critères et peuvent les changer, elles ont effectivement un grand pouvoir de designer dans l'évolution du vivant. On n'a pas le choix de les considérer comme celles qui ont imposé aux mâles les danses, les mélodies, les couleurs nuptiales, les combats et autres caractères sexuels secondaires. Évidemment, le monde animal n'est pas monolithique et toute règle s'y confirme par de nombreuses exceptions. Aujourd'hui, on sait aussi que les femelles ne sont pas ces êtres fidèles et passifs que voyait le patriarcat scientifique de l'époque victorienne. Dans le monde animal, seulement 7% des espèces sont sexuellement monogames, ce qui veut dire que les femelles qui cherchent des accouplements avec d'autres partenaires sont légion dans la création. Même des oiseaux qu'on a longtemps présentés comme des monogames stricts pratiquent très majoritairement une monogamie sociale. Autrement dit, Ils forment des couples, mais 90% des partenaires sautent la clôture. Pour terminer, permettez-moi, de façon préventive, de préciser à ma femme que ce texte n'est pas un plaidoyer justifiant l'infidélité, mais un appel à l'équité, à l'ouverture à la diversité sous toutes ses formes. C'est la meilleure façon de secouer les biais systémiques dans une organisation incluant la biologie qui a longtemps été une chasse gardée masculine. L'arrivée des femmes et des minorités sexuelles dans les sciences de l'évolution, brillamment racontée par l'autrice de Bitch, nous en a fait la démonstration d'une belle et inclusive façon. C'était « Masculinisme, naturalisme et darwinisme », un texte de Boucar Diouf, paru le 30 novembre 2024 dans la presse.
Les coupes dans les bibliothèques collégiales ébranlent la chaîne du livre. Un texte de Zachary Goudreau et Catherine Lalonde paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir. De nombreux cégeps ont dû suspendre les achats de livres et de documents pour leurs bibliothèques dans les derniers mois. La raison? L'imposition par Québec de seuils d'investissement surprise que les cégeps ne peuvent pas dépasser. Les professeurs et les étudiants écopent, mais aussi toute la chaîne du livre. Les librairies indépendantes comptent parmi les nombreuses victimes collatérales de restrictions budgétaires majeures imposées par Québec l'été dernier au cégep. Ces derniers ont alors dû réduire considérablement plusieurs de leurs dépenses, y compris dans leurs bibliothèques. De nombreux établissements ont ainsi suspendu dans les derniers mois de 2024 l'achat de nouveaux livres et de documentaires, à l'exception de quelques-uns jugés essentiels. À la librairie Zone Libre au centre-ville de Montréal, l'effet sur ses ventes a été drastique, confie sa propriétaire Mireille Frenette. Dès le début du mois de septembre 2024, les commandes de certains cégeps ont considérablement diminué. Son plus gros client du réseau collégial, le cégep du Vieux-Montréal, reconnu pour sa vivacité en littérature et son centre d'animation de français, le CANIF, qui invite régulièrement des auteurs en classe, a de son côté complètement cessé d'acheter dans cette librairie pendant quelques mois. Cette situation a forcé le commerce à mettre sur pause toute nouvelle embauche, puisqu'il tire, en temps normal, 30% de son revenu institutionnel des cégeps. Madame Frenette note cependant que ses commandes provenant du cégep du Vieux-Montréal ont repris tout récemment, mais de façon bien modeste, après que l'établissement eut rehaussé, en puisant dans des allocations destinées à d'autres fins, le budget qu'il accorde à sa bibliothèque. Celui-ci s'élève cette année à 150 000 $ au terme de ce brassage de cartes contre 166 639 $ en 2023. C'est un peu un respirateur artificiel, explique le professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal, Stéphane Tellen. Ce dernier doute que l'établissement sera en mesure, en 2025, de réinvestir dans le contenu de sa bibliothèque. Le cégep de Baie-Comeau a lui aussi réussi, en puisant dans ses surplus, à ramener à 20 000 $ cette année le budget de sa bibliothèque, qui avait d'abord fondu à 7 500 $ en raison des restrictions imposées par Québec. Ces sommes-là, normalement, on garde ça de côté pour des projets de grande envergure, comme la réfection de notre café étudiant ou de la bibliothèque, explique la directrice générale Manon Couturier, qui craint de ne pas être en mesure d'épargner de nouveau sa bibliothèque en 2025. Or, on s'entend qu'acheter des livres pour la bibliothèque, c'est pas mal au cœur de la mission d'un cégep, rappelle-t-elle. C'est inquiétant. On ne connaît toujours pas nos plafonds d'investissement pour les prochaines années, relève pour sa part le directeur général du cégep de Trois-Rivières, Éric Millette, qui a lui aussi réussi à ne pas réduire le budget de sa bibliothèque cette année. Mais pour combien de temps? Un écosystème fragile. Les librairies sont d'ailleurs loin d'être les seules victimes collatérales des défis financiers que vivent les bibliothèques du réseau collégial. Les cégeps commandent de tout. Donc, au bout du compte, ça affecte toute la chaîne du livre, des auteurs aux éditeurs, aux fournisseurs. Toute cette chaîne-là est liée. Donc, qu'on le veuille ou non, ça vient un peu tous nous bousculer, explique le libraire Anthony Osoré de la librairie Poirier à Trois-Rivières. L'Association nationale des éditeurs de livres et les maisons d'édition sont d'ailleurs alarmées. Si on souhaite intéresser les jeunes à la culture québécoise, il faut que les bibliothèques collégiales demeurent de riches lieux de découverte et d'acquisition de connaissances, souligne Geneviève Pigeon, présidente de l'association et propriétaire des éditions L'Instant Même. Les collégiens doivent avoir accès à un savoir renouvelé et pouvoir consulter et emprunter des livres de fond comme des nouveautés littéraires, poursuit Mme Pigeon. Marika Chartrand-Lee, 19 ans, étudiait au cégep Édouard-Monty en 2023. Elle entame maintenant ses études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. « Moi, ce qui m'inspire, c'est de voir le monde faire son chemin », rapporte-t-elle. « Je comprends qu'il faut comprendre le passé, les règles, les traditions, avant d'embarquer dans des œuvres qui dénouent ces traditions d'écriture. » Mais c'est bien de prendre le pouls de ce qui s'écrit et se passe présentement. Selon Mme Chartrand-Lee, non seulement les nouveautés doivent garnir les bibliothèques, mais c'est sur elles et sur les œuvres contemporaines que l'enseignement devrait se concentrer. Restreindre l'accès aux livres. Plusieurs cégeps n'ont d'ailleurs pas été en mesure cette année de prévenir une baisse importante du budget d'acquisition de livres accordé à leurs bibliothèques. A constaté Le Devoir après avoir contacté une trentaine d'établissements de la province. Toute la chaîne du livre est touchée, constate Émilie Duprat-Langlais, spécialiste de la science de l'information au cégep de Baie-Comeau. C'est fragile comme milieu. Les entreprises d'ici ne sont pas des multinationales qui roulent sur l'or. Restreindre les budgets d'acquisition, c'est nécessairement restreindre l'accès aux livres. Croit le président de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, UNEC, Pierre-Yves Villeneuve. Et restreindre l'accès aux livres, c'est restreindre le soutien accordé aux artistes de la littérature qui les créent et les rendent possibles. Les cégepiens se retrouvent ainsi devant des rayons dégarnis avec un choix limité qui ne reflète pas la richesse et la diversité des œuvres québécoises. Jointes par Le Devoir, les librairies Pantoute et La Liberté de la région de Québec ont, elles aussi, fait état de pertes financières se chiffrant à plusieurs milliers de dollars en lien avec la baisse des commandes en provenance des cégeps. L'UNEC note pour sa part que les compressions dans les budgets des bibliothèques de cégep vont à l'encontre des engagements et des valeurs qui, selon le premier ministre François Legault, animent le gouvernement du Québec. Lui-même grand lecteur, François Legault a souvent parlé de la volonté de faire de la lecture une priorité, souligne M. Villeneuve. Visiblement, la lecture n'est pas aussi prioritaire que la CAQ le prétend. La chaîne du livre. Adoptée en 1981, la loi 51 sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre instaure la fameuse chaîne du livre au Québec. En rendant tous les acteurs du domaine du livre interdépendants, comme les maillons d'une chaîne, cette loi vise la protection et même la croissance des industries du livre dans le tout petit marché de lecteurs francophones qu'est le Québec. Quant aux bibliothèques, appelées dans le jargon les collectivités, la loi les oblige à acheter leurs livres imprimés dans au moins 3 librairies agréées québécoises différentes, ce qui aide davantage de librairies. C'était « Les coupes dans les bibliothèques collégiales ébranlent la chaîne du livre », un texte de Zachary Goudreau et Catherine Lalonde paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir.
Le changement fait bondir les collisions en soirée. un texte d'Henri Ouellette Vézina, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse. Les accidents grimpent en flèche entre 17h et 20h dans les semaines suivant le changement d'heure automnale, révèlent de récentes données de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC. Les piétons en font particulièrement les frais. Alors que le gouvernement Legault mène une consultation sur la possibilité de mettre fin au changement d'heure, la SAAC a comparé le nombre d'accidents survenant dans les 30 jours avant et après les changements d'heure. Et les résultats sont saisissants. De 2019 à 2023, entre 17h et 20h, le nombre d'accidents corporels a bondi de 25 % l'automne. Sur une journée entière, la variation est plus légère, mais demeure en hausse, avec 4 %. En raison du changement d'heure automnal, l'obscurité arrive nettement plus tôt. Le 2 novembre dernier, le soleil s'est couché à 17h39. Le lendemain, il s'est couché à 16h38. Au printemps, quand la province avance l'heure et prolonge le degré d'ensoleillement, la situation est tout autre. Les baisses de collisions oscillent entre 24 et 27 % selon le moment de la journée. Les piétons en font les frais. Les piétons vivent le plus durement l'impact du changement d'heure, révèlent les données de la SAAC. Pour les personnes qui voyagent à pied, la hausse du nombre d'accidents atteint 78 % à l'heure du retour à la maison l'automne. À l'inverse, au printemps, les accidents impliquant les piétons sont 45 % moins nombreux durant la pointe de fin de journée. Bon an, mal an, avec près de 450 collisions, c'est le mois de novembre, en plein automne, qui est le plus accidentogène. Au printemps, le mois de mars est le moins occupé à ce chapitre, avec à peine 200 accidents avec dommages corporels enregistrés. Ces données concernant la surreprésentation des piétons dans les accidents suivant le changement d'heure automnale, sont, encore une fois, devenues réalité cet automne. Au début de novembre, un conducteur de camion a percuté et tué un enfant de 11 ans dans le quartier Mile End, à Montréal. L'accident avait relancé le débat sur le changement d'heure. Je remarque que ça s'est produit une journée après le changement d'heure, alors qu'il fait noir plus tôt, avait déclaré la conseillère associée aux transports actifs, Marianne Giguère. Lorsqu'on conduit un véhicule motorisé, on doit redoubler de prudence parce qu'on a une arme potentiellement mortelle entre les mains. Sensibilisation à faire. À la lumière de ces statistiques, la SAAC estime que les efforts de sensibilisation doivent se poursuivre, surtout à l'automne, en ce qui a trait à l'importance d'être plus vigilant sur la route à cette période de l'année. Nous l'avons fait lors de notre appel à la prudence à l'aube du mois du piéton, octobre, et nous continuerons nos actions de sensibilisation en ce qui a trait à la fatigue au volant et sur le partage de la route, assure la porte-parole de l'organisation Geneviève Perron. Fin octobre 2024, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a annoncé la tenue d'une consultation publique sous la forme d'un questionnaire web pour déterminer la possibilité d'abolir le changement d'heure. Cette mesure, adoptée à l'origine pour permettre des économies d'énergie et d'augmenter la productivité durant la Première Guerre mondiale, a été adoptée au Québec dans les années 1940. Elle est toutefois de plus en plus remise en question. Dans l'Ouest, la Saskatchewan n'avance plus les cadrans depuis 1966. Le changement d'heure peut contribuer à un manque de concentration à l'école, à un trouble de l'appétit, à plus d'irritabilité et à de la somnolence à des moments inappropriés de la journée, avait indiqué M. Jolin-Barrette, ajoutant que certaines études dénotent une augmentation des infarctus, des suicides et des accidents. Pour la directrice générale de Piéton Québec, Sandrine Cabana-Degani, il est clair que la noirceur, couplée avec l'heure de rentrer à la maison, c'est vraiment dangereux pour les usagers vulnérables. L'automne, c'est toujours un moment où la circulation est importante, explique-t-elle. En fin de journée, les gens sortent du bureau, de l'école, des transports collectifs. Ils sont à pied, il fait noir. Donc, si l'éclairage urbain n'est pas adéquat, ils sont beaucoup plus exposés au risque. On le voit chaque année dans les chiffres. Que faire en attendant? Outre un potentiel changement réglementaire, il faut surtout revoir la façon de concevoir nos rues, affirme Mme Cabana-Degani. Trop souvent, notre éclairage urbain est très orienté vers la rue et non sur les corridors piétons. Des fois, juste des petits ajustements peuvent avoir un grand effet sur la sécurité, note-t-elle. Son groupe applaudit l'arrivée de technologies innovantes comme les deux nouvelles traverses intelligentes s'allumant automatiquement au passage d'un piéton qui viennent de voir le jour aux abords de zones scolaires à Candiac sur la rive sud. Une première en Amérique. L'initiative se veut une façon de sensibiliser les automobilistes et ainsi réduire les risques d'accident. C'est sûr qu'il y aurait des avantages à ne pas changer l'heure, mais après, si on fonctionnait juste en heure d'été, le matin, au moment où les enfants iraient à l'école, il ferait noir quand même. Peu importe donc, il y a un travail à faire pour changer nos aménagements en profondeur, poursuit Mme Cabana-Degani. Elle suggère, par exemple, de mieux éclairer les parcs municipaux et les sentiers urbains. Quand c'est noir dans des espaces publics, on ne se sent pas toujours en sécurité. Et c'est là, justement, qu'on s'en va marcher dans la rue, sous les lampadaires, dit-elle. C'était « Le changement fait bondir les collisions en soirée », un texte d'Henri Ouellette Vézina, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse.